À la Banque Van Breda, vous méritez plus de sérénité. Plus de sérénité pour écouter le brief pendant que nous nous concentrons sur vos questions financières. Banque Van Breda.
Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le jeudi 28 mars et voici notre regard sur l'actualité, l'essentiel pour celles et ceux qui ont l'esprit d'entreprendre.
Le brief de l'écho.
On n'arrête pas de parler de crise énergétique, mais d'après une étude de Belfius, les factures d'énergie réellement payées par les ménages et les entreprises ont été un peu moins élevées qu'attendu. Les détails dans un instant. Avant la fin de la législature, le gouvernement fédéral devrait prendre une série de mesures pour réduire le coût des refinancements de crédits hypothécaires. À l'approche des élections, l'industrie alimentaire lance un appel au monde politique. Le secteur doit faire l'objet de mesures d'urgence pour améliorer sa compétitivité et sa rentabilité. Je suis Ondine Ouérès, bienvenue dans le Brief.
Brief. Cette info dès 7h.
Voilà de quoi relativiser la crise énergétique dont on parle tant, ou du moins ses effets chez nous en Belgique. La banque Belfius a analysé dans le détail les factures de plus de 250 000 ménages et de 12 000 entreprises entre 2019 et 2023. Et finalement, la flambée des prix sur le marché de gros de l'énergie a eu un impact sur la facture finale des consommateurs, oui, mais beaucoup plus réduit qu'on ne pouvait le craindre. La facture médiane des ménages a augmenté d'un peu plus de 4% en 2022, mais elle a ensuite diminué de plus de 7% en 2023. Alors, comment ça se fait ? On voit le détail des chiffres avec vous, Christine Scharf.
Donc, ce qu'on voit, c'est qu'en 2022, au plus fort de la crise, la moitié des ménages ont une facture moins élevée qu'en 2021. Dans le même temps, il y a aussi 10% des ménages qui ont vu leur facture d'énergie au moins doubler. Donc, ce qui se passe, c'est qu'il y a plusieurs éléments qui viennent influencer les choses. Le premier, c'est toutes les aides que les pouvoirs publics ont mises en place pour aider les ménages à passer la crise. Bon, pour certains, ça allège la facture à un point tel qu'ils payent moins qu'avant. Il y a aussi le fait qu'il y a beaucoup de contrats fixes qui continuent à protéger les ménages, même s'ils diminuent avec le temps. Et un dernier élément, c'est que face au prix qui flambait, un certain nombre de ménages ont fait attention et ont diminué leur consommation. Donc, tout ça explique que les factures réelles ont connu une progression beaucoup moins forte que ce qu'on avait craint.
Ok, donc la situation est très contrastée du côté des ménages, mais du côté des entreprises alors ?
Alors, on observe la même tendance, mais moins marquée. Donc, c'est-à-dire que les factures ont augmenté en moyenne en 2022 de 35 à 57%. C'est beaucoup moins que ce qu'on avait craint également, mais la hausse reste là.
Et du côté des très grandes entreprises, le discours n'est pas tout à fait le même. Les plus gros consommateurs d'énergie ont lancé un appel hier. L'électricité coûte cher en Belgique, plus cher que dans les pays voisins, et cela nuit à la compétitivité des industriels. D'après Febeliec, qui est la fédération des gros consommateurs d'énergie, les taxes, surcharges et frais de transport restent beaucoup plus élevés chez nous. Le secteur appelle donc la Belgique à soutenir davantage son industrie si elle veut qu'elle tienne le choc face à la concurrence étrangère, notamment celle des États-Unis. Les industriels belges plaident donc pour un industrial deal européen. Et ils appellent à arrêter le jeu des subsides entre États membres. Réduire les frais sur le refinancement des prêts hypothécaires, c'est une mesure proposée par Pierre-Yves Dermagne, le ministre fédéral de l'économie. L'une des dernières de la législature sans doute d'ailleurs. Actuellement, lorsque l'on veut revoir son prêt hypothécaire pour profiter de meilleurs taux, la banque facture ce qu'on appelle des indemnités de remploi, qui correspondent à 3 mois maximum d'intérêt et des frais de dossier, sans compter tous les frais de notaire si on change de banque. Pour limiter de tels coûts supplémentaires, Dermagne veut obliger les banques à opter pour une modification du prêt hypothécaire plutôt que de conclure à un nouveau contrat de crédit. Et ça change tout. En cas de simple modification du contrat, les frais de remploi notamment ne doivent pas être payés. Deux exceptions sont prévues cependant, en cas de suspension du remboursement ou en cas de changement du montant du prêt. Dans ces cas-là, un nouveau contrat sera toujours nécessaire. La proposition devrait passer dans le cadre d'une loi fourre-tout qui sera votée dans le courant du mois de mai. C'est le premier employeur industriel du pays et aussi son plus gros chiffre d'affaires. Le secteur alimentaire pèse lourd dans l'économie belge et c'est peu de le dire. A priori, tout va bien. Le chiffre d'affaires du secteur est en hausse et l'emploi aussi. Mais à y regarder de plus près, le vernis craque. Les marges se réduisent et les volumes de vente diminuent. Un paradoxe que relève Bart Buys, le CEO de FEVIA, la Fédération des entreprises du secteur agroalimentaire.
Il faut quand même tenir compte du fait que le chiffre d'affaires a été gonflé, je dirais, par l'effet prix. Donc c'est en fait l'inflation des prix alimentaires qui fait aussi gonfler le chiffre d'affaires dans le secteur. Même chose en fait pour l'emploi, donc tendance positive, mais quand même pas au même rythme que les années passées. Et c'est vrai qu'en réalité, les volumes diminuent et c'est pour la quatrième année consécutive, donc c'est quand même une certaine tendance qui devient importante. Et les marges sont historiquement bas. Et quelles sont en fait les raisons derrière? C'est clair, il y a naturellement l'impact des crises consécutives et toutes les conséquences sur les prix, sur l'énergie, etc. aussi. Donc la plupart des entreprises a dû assumer les surcoûts pour une grande partie eux-mêmes, qui a directement un impact sur les marges naturellement. Je voudrais aussi dire que pour la première fois, on a vu une augmentation quand même importante du nombre de faillites dans le secteur. Donc comparé avec les chiffres de 2022, plus 34%, c'est beaucoup. Donc ça montre aussi que nos entreprises sont difficiles. Hein.
Et à la veille des élections, la FEVIA adresse donc ses revendications au prochain gouvernement pour restaurer sa compétitivité et sa rentabilité. Des revendications en 4 points, l'allègement des charges salariales, une meilleure répartition des marges dans la chaîne de l'alimentaire, la mise en place d'une vraie politique industrielle et enfin une formation plus adaptée. La nouvelle arme des terroristes, ce sont les réseaux sociaux et la désinformation qui y circule librement ou presque. À la veille des élections, le Conseil national de sécurité, qui réunit le Premier ministre et les ministres de l'Intérieur, de la Défense et de la Justice, veut lutter plus efficacement contre les manœuvres de désinformation venues de l'extérieur du pays. Impossible d'arrêter toutes les tentatives pour déformer l'information, le gouvernement va donc travailler sur des contre-récits à opposer aux fake news utilisées par des puissances étrangères pour manipuler l'opinion. Le centre de crise organisera ses réponses via son site internet et les différents organes de sécurité mèneront un screening constant des réseaux sociaux pour repérer toutes les fausses informations. Selon plusieurs sources, la Russie arrive en tête des puissances qui cherchent à organiser une désinformation, suivie de la Chine et de l'Iran. Bruxelles se dote de Selfmade, un nouveau programme d'accompagnement pour les femmes entrepreneurs. Avec des dizaines de femmes et 3 hommes seulement à sa cérémonie de lancement, Selfmade affiche ses ambitions, porter haut les couleurs de l'entreprise au féminin. Ce programme du réseau Entreprendre Bruxelles durera jusqu'à la fin de l'année et le but, c'est de créer un réseau d'échange de bonnes pratiques entre personnes qui ont les mêmes préoccupations par rapport à leur vie professionnelle de self-made woman. Sans pour autant prôner l'entre-soi ni une quelconque victimisation. Parce que de prime abord, les contraintes de l'entrepreneuriat ne diffèrent pas pour une femme ou pour un homme. Il s'agit toujours d'un saut dans l'inconnu où le réseau est primordial. Écoutez le témoignage de Sarah Mulongo. Elle est cofondatrice de Balance Event, une agence d'événements professionnels lancée il y a 6 ans.
Quand je me suis lancée comme entrepreneuse, j'avais un peu l'impression de sauter sans parachute. Mais après, ben voilà, c'est trouver les bonnes personnes qui peuvent nous entourer, qui peuvent nous aider à trouver ce dont on a besoin pour démarrer. Et une fois qu'on a trouvé, on va dire, ces bonnes personnes-là, ça peut ouvrir des portes. Mais la première chose, c'est se créer un environnement, un réseau. Et c'est toujours comme ça, c'est via qu'on arrive à construire sa position, on va dire, entrepreneuriale. C'est vraiment chercher toutes les personnes qui peuvent nous aider à ouvrir les différentes portes dont on aura besoin.
Par contre, ce qu'il manque sans doute dans le parcours de l'entrepreneuse, c'est la présence de mentors ou de références féminines qui pourraient apporter des conseils.
Moi, quand je me suis lancée vraiment comme entrepreneuse, il n'y a pas eu la question de genre. En tout cas, pour ma part, je ne me suis pas dit « Ah tiens, moi je suis une femme, est-ce que ça va être plus dur? Est-ce que ça va être moins dur ?» Après, c'est vrai que en cherchant, on se rend compte que, par exemple, moi, dans mon domaine, dans le domaine événementiel, j'ai vite constaté que c'était un domaine où les référents étaient plus des figures masculines. Et c'est vrai que ça, je n'ai pas trouvé directement dans ce domaine une référence auquel je pouvais m'accrocher, on va dire.
Dans l'entrepreneuriat, le déséquilibre entre les genres reste significatif. En Belgique, les femmes représentent un petit peu plus du tiers des entrepreneurs indépendants. Alors oui, le rattrapage est en marche et l'écart se réduit. Mais à ce rythme, il faudrait tout de même attendre 2081 pour arriver à la parité. Un vrai diplôme européen, ça fait des années qu'on en parle, mais sans réelles avancées jusqu'ici. Mais 40 ans après le lancement du programme d'échange Erasmus, il sera peut-être temps que ce diplôme à 12 étoiles devienne une réalité. Ce n'est pas encore pour demain, mais la Commission européenne a fait un premier pas vers sa réalisation. Elle propose aux États membres de s'accorder sur un ensemble de critères européens du futur diplôme. Ces critères serviront de base à des programmes d'études transnationaux. En fait, c'est déjà assez largement le cas dans la pratique. 500 universités et écoles supérieures, dont 15 belges, font partie d'une soixantaine d'alliances qui proposent des cursus transnationaux. Mais ces programmes restent encore assez confidentiels. Mais bon, il faut rappeler que l'Union européenne a des compétences très réduites en matière d'enseignement. Elle peut donc inciter, mais rien n'imposer. Il ou elle fait généralement déjà partie du personnel, il ou elle a une expérience internationale et il ou elle est aussi passé dans un autre secteur d'activité. C'est le profil type du CEO des entreprises du Bel 20, un profil dessiné par l'enquête annuelle du cabinet de recrutement de haut niveau Edric & Struggles. Un profil qui n'évolue pas beaucoup d'année en année, tout comme le management des sociétés du Bel 20 d'ailleurs, qui reste assez stable. Par contre, une tendance se précise, et notamment depuis le Covid. La succession est une étape qui se prépare de plus en plus tôt dans les grandes entreprises. La volatilité de l'environnement actuel pousse les sociétés à se préparer à ces changements qui peuvent intervenir à tout moment. C'est l'analyse de Marie-Hélène De Coster. Elle est en charge du bureau du recruteur en Belgique et au Luxembourg.
Dans un monde qui est extrêmement volatile et imprévisible, c'est une gestion de risque de s'assurer qu'il y a de bonnes successions en place. Et ça pourrait être une succession qui ne doit pas se faire nécessairement immédiatement, la raison pour laquelle un nombre de sociétés vont travailler à la succession des CEO bien en amont, en identifiant des talents dans l'organisation, et parfois ils vont loin dans l'organisation. Et c'est un exercice qui peut se faire en parallèle avec une mesure de talent au niveau de CEO à l'externe. Et ça permet pour des candidats internes qui ne seraient pas nécessairement prêts aujourd'hui de définir les aires de développement pour les préparer au poste de CEO dans un an, voire dans deux ans.
Et c'est aujourd'hui que l'ancien prodige des cryptos Sam Bankman-Fried devrait connaître sa peine. Elle pourrait être l'une des plus longues de l'histoire de la criminalité en col blanc aux États-Unis. La superstar déchue des crypto-monnaies a été reconnue coupable de fraude pour avoir utilisé les avoirs des clients de sa plateforme FTX sans leur consentement. On vous tiendra au courant tout au long de la journée sur l'écho.be et sur notre application. Merci à Laurent Fabry qui était à la préparation de cet épisode. Moi, je vous dis à demain pour le dernier brief de la semaine. Bonne journée, salut.
Van Breda, vous méritez plus d'évolution. Plus d'évolution de votre capital. Plus d'évolution de votre capital pendant votre carrière pour pouvoir suivre l'évolution de vos petits-enfants après votre carrière. Vous méritez également plus de Banque Van Breda pour votre vie professionnelle et privée. Banque Van Breda, réservée aux entrepreneurs et aux professions libérales.